Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Et bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Sport Campus. On est en direct, comme tous les mercredis, on se retrouve pendant une heure pour parler sport. Et pour ce faire, on retrouve la fine équipe avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Comment ça va? Nickel.
Voilà.
Voilà, nickel, j'anticipe maintenant. Et on retrouve Joris et Nicolas, salut.
Ça va nickel.
Tout est nickel, tout est parfait. Et on accueille aujourd'hui nos deux invités pour cette émission. Il s'agit de Fatia Eschari. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très très bien, nickel.
Alors vous êtes PJJ au quartier jeune de Gradignan. On va expliquer un peu les termes à l'heure, hein, de quoi il s'agit. Et on retrouve à nouveau Adèle Yamdi qui était déjà venue sur nos ondes. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors on va en parler, hein, de, notamment de tout ce qui a trait à la protection judiciaire, au sport, dans le milieu carcéral, etc. Mais tout d'abord Alain, tu as une annonce à nous faire.
Oui, notre invité Kodjo Yotonio va disputer le championnat de France des poids légers samedi 19 à Hénin-Beaumont contre l'Aïd Daoudi. Voilà, il m'avait demandé de vous le dire. Si vous n'y allez pas, vous n'aurez pas l'excuse.
Voilà, l'information est passée et on va peut-être aborder tout de suite la thématique de l'émission. Je te laisse la présenter Alain.
Ouais, mais je disais, le mot sport est universel. C'est vrai qu'à la maternelle, on fait du sport pour maigrir, on fait sport pour avoir du muscle, les maisons de retraite font faire du sport. Il y a le sport business, le sport paillette, pas Dimitri, hein. Le sport paillette, en fait.
Ça commence.
En fait, il y a pas mal de sports, celui qu'on voit, et puis il y a ce que j'appellerais le sport de l'ombre, quoi, en fait, le sport qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que j'ai tenu, pour des raisons multiples et diverses, et il y a un petit moment que je voulais faire cette émission, à faire venir Fatia, parce que tu travailles en milieu fermé, en milieu carcéral. Et ce sport-là, en fait, tu vas nous l'expliquer, mais je crois que c'est ce qui relie encore des hommes aux hommes, quoi, en fait. En gros, c'est ça, non?
À peu près. Alors, du coup, ben, voilà, donc, bonjour, donc, Fatia Eschari. Donc, je suis éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, je suis fonctionnaire du ministère de la Justice. Voilà, et donc, effectivement, j'interviens au quartier mineur de Gradignan. Donc, pour expliquer un petit peu, si vous voulez, je fais une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que le travail d'éducateur PJJ. Donc, effectivement, on est fonctionnaire, on est recruté, donc c'est un concours national. On est recruté à Bac+3 et on a 18 mois de formation dans une école de la PJJ qui se trouve à Roubaix. Voilà. Et donc, notre travail, c'est en lien avec les mineurs. Avant, c'était l'ordonnance 45, les mineurs délinquants incarcérés, placés ou suivis dans le cadre judiciaire par les juges pour enfants. Et donc, nous, on intervient là. Donc, on est en lien avec, effectivement, les magistrats. On est en lien avec les familles. On est en lien, surtout, avec les jeunes. Et moi, dans le cadre, on intervient sur plusieurs niveaux. On peut intervenir au tribunal, dans les PAT. On peut intervenir dans des milieux ouverts, dans des UMO. On peut intervenir dans des centres éducatifs fermés, on peut intervenir dans des structures d'hébergement des foyers, ou comme moi, dans des quartiers mineurs, ou même des EPM, des établissements pour mineurs. Notre travail, donc, ça reste en lien avec les mineurs. Le but, effectivement, c'est de les réinsérer, de les remettre, effectivement, en lien avec la société, et de les sortir un peu de ce parcours délinquant. Voilà. Donc, si vous voulez un peu plus d'explications sur le recrutement des éducateurs PJJ, je ne sais pas si ça vous intéresse.
Oui, bien sûr, allez-y.
Voilà. Donc, en fait, nous, on a plusieurs formations. C'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir une formation en droit spécifique pour pouvoir intervenir au ministère de la Justice. On va avoir des formations en sciences humaines, STAPS aussi, pas mal. Et effectivement, il faut qu'on soit à Bac+3. Donc, pour les étudiants que ça intéresse, même s'ils n'ont pas encore validé leur Bac+3 lorsqu'ils s'inscrivent au concours, il faut qu'en septembre, quand ils passent le concours, ils puissent avoir effectivement ce Bac+3. Et à partir de là, il y a ces 18 mois de formation à Roubaix. Voilà. Donc, en ce moment, la justice recrute. Donc, si vous voulez, après, toutes les informations pour le recrutement, bah, je vous laisserai prendre contact avec Alain, ou je laisserai toutes les coordonnées, en fait.
Moi, avec mon certificat d'études, je peux pas, quoi.
Bah, voilà, je sais pas.
Déjà, je ferai pas ça. Je vais te poser une question, parce que j'ai ma fille, fille aînée, on en a parlé tout à l'heure en off, qui fait la même profession que toi, elle était sur Mont-de-Marsan. Et quand j'ai discuté avec elle, c'est vrai que moralement, physiquement, on rentre en vrac, comment dire ça, quoi. C'est quoi qui t'a poussé vers ce métier?
Alors en fait, moi, alors je ne suis pas du tout formation juridique. Moi, je suis sciences humaines. J'ai un master 2 d'anthropologie. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà.
À Bordeaux.
Oui. Donc voilà. Et en fait, j'ai découvert ce travail, ce métier. Je travaillais au tribunal pour enfants et j'ai découvert qu'il y avait un métier qui s'appelait éducateur PJJ. Et ce qui m'intéressait, c'est effectivement de venir en aide et en soutien aux jeunes et à leurs familles et de sortir en fait ces jeunes de cette spirale de délinquance et de les remettre en fait, de les réinsérer au niveau de la société et qu'ils aient leur place. Voilà. Et donc à partir de là, bah, j'ai été intéressée, j'ai passé le concours et franchement, c'est un travail qui me porte. Et ce lien avec les mineurs, leurs familles et effectivement le fait de les accompagner et de voir qu'à un moment donné, ils arrivent à s'en sortir et de les voir plus tard, bah, moi, c'est ce qui me renforce et qui me fait du bien et qui leur fait du bien aussi. Voilà.
Dans PJJ, il y a le mot protection.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot protection ?
Alors, effectivement, il y a les doubles, effectivement. Ce n'est pas parce qu'un jeune est délinquant qu'il n'est pas en danger. Donc, on est là, effectivement, d'une part pour le protéger et pour, effectivement, le sortir de cette spirale. Parce qu'on avait aussi, nous, on peut intervenir, effectivement, avant sur le cadre civil pour la protection des mineurs et, effectivement, sur le cadre, effectivement, pénal avec les mineurs qui ont commis des infractions. Donc, on est sur ces deux plans. Et ce n'est pas parce qu'un mineur est délinquant qu'il n'est pas en souffrance et qu'il ne faut pas le protéger. Donc, on est vraiment sur ces deux plans-là et on agit toujours comme ça.
Le sujet de la réinsertion, hein, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en France et, notamment, il y a aussi beaucoup de critiques vis-à-vis du système judiciaire et de cette réinsertion. Aujourd'hui, c'est quoi votre constat par rapport à la réinsertion en général, est-ce que ça fonctionne bien ?
Bah, ça fonctionne. Nous, effectivement, le but pour nous, ce n'est pas de laisser de côté ces jeunes qu'on a accompagnés, mais de les réinsérer dans le cursus, effectivement, avec tout ce qui est en commun, les remettre, en fait, dans la société, pas de les laisser à la marge. Et effectivement, on essaie d'utiliser ce qu'il y a disponible pour nous, pour les remettre, en fait, et ne pas avoir cette étiquette, c'est un délinquant, il y a quelque chose de spécifique pour eux, et on le met de côté. Donc effectivement, tout ce qui est l'école, les insertions, les formations, notre but, c'est de les remettre dedans et de les remettre les pieds à l'étrier pour qu'ils puissent en sortir à ce niveau-là. Voilà. Après, effectivement, on n'a pas forcément les bonnes structures qui peuvent essayer à un moment donné accompagner ces jeunes-là et c'est compliqué. Donc, on essaie effectivement de se tourner sur plusieurs niveaux pour pouvoir remettre ces jeunes à l'étrier. Quoi.
Quelle différence on peut faire entre le quartier des mineurs de Gradignan et un centre d'éducation fermé ?
Le centre éducatif fermé, c'est une structure qui va prendre en charge donc un jeune, mais c'est le SAS avant la pénitentiaire, avant l'incarcération, avant la prison. Voilà, donc c'est vraiment...
C'est le purgatoire un peu.
Purgatoire, non. Ouais, mais c'est vrai que la dernière, effectivement, quand on a tout tenté, à un moment donné, il y a des moments où, effectivement, la dernière, c'est la prison et le quartier mineur ou alors les établissements pour mineurs. Voilà, donc c'est vraiment le dernier.
Mais les éducateurs, on en retrouve aussi en centre d'éducation
fermé.
Tout
à fait, oui, parce qu'effectivement, le centre éducatif fermé, donc il y a des associatifs habilités ou des centres éducatifs fermés qui sont purement ministère de la Justice. Donc voilà, et donc nous, on nous retrouve à tous les niveaux. On peut être effectivement dans les centres éducatifs fermés, on peut être effectivement dans des structures d'hébergement traditionnelles ou effectivement en prison, voilà, ou des UAJ, parce que nous avons des structures, des unités d'activité de jour, effectivement, où on va prendre en charge les jeunes avant de les réinsérer, de les mettre sur le droit commun, des structures, des formations, des emplois. On est là et on essaie effectivement par le biais de stages, par le biais d'activités, de les remettre un petit peu dans tout ça, de leur redonner effectivement un planning, se lever le matin, aller rencontrer un tel, se présenter, etc. Voilà, on travaille ça et ensuite, une fois qu'ils sont prêts, on les intègre effectivement sur le cursus.
Ces quartiers ont été jeunes, ça a été créé vers les années 75, c'est ça ? C'était pour éviter justement la proximité entre les vrais voyous et les jeunes qui rentraient pour une autoradio, quoi.
Pour éviter la proximité, mais surtout c'est spécifique, un mineur, il n'a pas effectivement à être en relation avec les majeurs. Donc effectivement, c'est pour ça que ça a été créé, pour les mettre à part et pas les mettre... parce que c'est pas du tout la même prise en charge, même si c'est une prison. Prendre en charge un jeune mineur n'est pas la même, c'est pas le même travail qu'un adulte. Donc effectivement, il n'a pas à les croiser et c'est très spécifique. Donc même les éducateurs, donc on est là et les surveillants qui interviennent sur les quartiers mineurs ont une formation normalement qui est spécifique aussi. Ce n'est pas un détenu lambda, c'est un mineur. Voilà. Donc il y a.
D'accord. Et, on a avec nous Adèle qui est prof de boxe, hein, qui dit boxe et dit violence. malheureusement, c'est un sport violent, c'est vrai. Et on sait qu'en prison, malheureusement, la violence, ça va crescendo, ça va pas de... Et pourquoi avoir choisi la boxe dans un quartier mineur où il y a déjà de la violence pour médicaments, on va dire quoi.
Alors la nuance, c'est que Adèle fait de la boxe éducative au quartier mineur du Gradignan. Donc déjà le mot.
D'accord,
éducatif...
c'est pas des combats.
Alors, il peut les amener.
C'est ce que
effectivement...
j'essaie de faire comprendre aux auditeurs parce que ça.
Non, c'est pas forcément Adèle peut les amener. Donc c'est la maîtrise, mais il en parlera mieux que moi. Quand on spécifie bien que c'est de la boxe éducative, on retient les coups. Voilà, c'est la maîtrise effectivement de. On donne pas des coups et c'est tout un travail qu'effectivement les amène à faire Adèle. C'est le voilà, je suis là, je parie, je veux mettre mon coup, mais je le retiens. C'est encore plus dur que de mettre carrément le coup. Et là, Adèle effectivement est là pour leur expliquer qu'on est dans cette optique-là et à partir de là. Vont s'en suivre les règles, vont s'en suivre le respect de l'autre, vont s'en suivre le voilà, il y a plein de choses qui se mettent autour de cette boxe éducative et ça a un franc succès au quartier mineur de Gradignan parce qu'effectivement tous les jeunes sont demandeurs de ça. Ça leur permet de se maîtriser, de voir aussi qu'à un moment donné ils sont capables, même si elle est là, la violence elle est là, mais je la retiens. Donc c'est encore plus compliqué de retenir que de donner le coup.
Ma question était parce que quand j'ai présenté un collègue de boulot que je faisais cette émission aujourd'hui, il m'a dit mais comment ils n'arrêtent pas de se taper dessus en prison et en plus on leur fait faire de la boxe. C'est pour ça que j'ai voulu préciser.
Donc c'est éducatif, voilà.
Adèle, toi, donc ton niveau, c'est quoi alors?
Alors comme vous en avez parlé, moi j'essaye à travers la boxe, j'essaye d'apporter à tous ces jeunes des valeurs et des notions. J'essaye de leur enseigner plusieurs choses. Le respect de l'adversaire, bien entendu la maîtrise de soi, puisqu'on est sur un atelier de boxe éducatif, donc c'est de la découverte. Et voilà, en fait, je vais baser vraiment mes séances sur la façon de... C'est-à-dire comment appréhender la peur aussi. Parce que c'est vrai qu'être face à quelqu'un, ça crée automatiquement une frustration, parce qu'on va devoir la boxe, on se met des coups. Mais ce qui est intéressant dans la boxe éducative, c'est qu'on est vraiment sur un travail en opposition, face à face, mais avec beaucoup de maîtrise, c'est-à-dire de la maîtrise de soi. Et ces jeunes-là, pour la plupart, ceux que j'ai eu durant mes séances, moi je peux vous garantir, j'ai jamais eu de problème sur mes séances. C'est-à-dire c'est un sport qui a des valeurs, c'est un sport qui force le respect, qui donne le respect, qui crée un petit peu la camaraderie aussi, puisque après on arrive à... C'est-à-dire que les jeunes, ils deviennent un petit peu, on va dire, des amis, quoi. Ça les rapproche. Ça les rapproche. Et même quand on a des jeunes qui par exemple, se sont pris la tête sur la promenade, et bien quand on les voit sur la boxe, et bien on voit qu'ils arrivent à se maîtriser, ils arrivent à rentrer dans l'activité. C'est surtout ça, c'est-à-dire que ça va nous servir de levier, en fait.
Mais Adèle, tu entraînes dans un quartier difficile, on va le dire, hein. Et tu es amené à peut-être avoir des jeunes que tu côtoies tous les jours, à les retrouver donc en milieu fermé. La relation se passe comment alors après?
Alors, quand ils me voient là-bas, ils sont super contents. Déjà, quand ils me voient là-bas, ils sont super contents. Ça m'est arrivé. Donc j'ai eu des jeunes, que j'ai eu des boxeurs qui étaient chez moi dans le club et je les ai retrouvés en prison. Ça s'est super bien passé, ils étaient contents. J'ai réussi, j'ai continué. Moi, mon but, de toute façon, c'est simple, il est simple, c'est continuer à passer le message. Passer le message, un message positif, et essayer de les accompagner. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on parlait de protection. La protection, c'est tout ça. La protection, ce sont des jeunes qui sont, des fois, ils sont en désespoir. Et ils ne sont pas forcément méchants, ils ne sont pas violents. Ce sont des jeunes qui ont commis des bêtises. Et voilà, donc ils ont besoin d'aide. On a besoin de... Et à travers la boxe, moi, ce que j'essaie de leur apporter, c'est surtout ça. C'est la confiance en soi, les valeurs. C'est vraiment travailler sur ça. Et surtout la maîtrise de soi, parce qu'on a tous une part de violence en nous. Et le plus important, c'est d'arriver à se canaliser. La canaliser, on est tous quelque part violents. C'est-à-dire que mais le fait de faire d'une activité, de faire du sport, ça nous aide à garder les pieds sur terre, ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à prendre du recul. Et surtout quand c'est une activité comme la boxe, qui demande beaucoup d'investissement, qui demande du physique, du cardio. Donc voilà, c'est surtout basé sur ça.
Au risque de me répéter, j'étais invité dimanche dernier là, par l'USA Boxe, par Adèle et Mohamed Jamaï, à remettre des coupes, enfin, à participer à leur réunion de c'était samedi après-midi. La salle était comble. Et je peux vous dire qu'il y avait, j'en ai reconnu quelques-uns, des garçons qui avaient fouté dans leur vie, quoi, et d'autres qui étaient là. Mais il y avait une osmose, quoi. C'était le grand frère. En fait, Adèle et Mohamed, ce sont les grands frères. Et je voulais te poser une question, enfin, à toi ou à Adèle. Est-ce qu'on manque pas de ces grands frères ? Plutôt que de les envoyer, une fois que c'est trop tard, on va dire, une fois qu'ils sont enfermés, de les faire travailler en amont, à l'extérieur.
Alors oui, effectivement, mais c'est pas trop tard. C'est des mineurs et on peut toujours effectivement. Donc les rencontres qu'ils n'ont pas pu faire à l'extérieur avant de commettre, ils peuvent les faire nous à ce niveau-là, que ce soit en détention ou on les amène effectivement. On amène l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire on va leur faire rencontrer des personnes sportives comme Adèle. On va leur faire rencontrer des jeunes, enfin des adultes qui ont eu un parcours délictueux quand ils étaient jeunes, mais qui ont réussi à s'en sortir. Ils ont pu devenir journalistes, ils ont pu devenir humoristes. Donc ils sont avec nous et on leur amène l'extérieur à l'intérieur et ils rencontrent plein de personnes qui effectivement leur donnent un discours en disant ben, c'est pas parce qu'effectivement t'as fauté une fois ou deux fois et tu te retrouves en détention que c'est fichu, que tu peux pas t'en sortir, que tu peux pas avoir des perspectives autres, faire des études, t'en sortir, avoir un boulot, t'as un rêve, et ben tu peux y aller. Et donc ces adultes qui viennent les voir en détention leur donnent ce message. C'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, c'est des mineurs, on peut les aider, on peut les accompagner. Et là, bah, à l'intérieur, ils rencontrent ces gens-là et à l'extérieur, ils sortent avec plein d'idées. Ben voilà, c'est possible pour moi, je peux faire ça. Voilà, donc on les amène à ça. Et c'est vrai qu'Adèle disait qu'il peut rencontrer effectivement des jeunes qu'il avait eu au club, mais le contraire aussi, c'est des jeunes qu'il ne connaissait pas, qui, une fois qu'ils sont sortis de détention, ont demandé l'adresse du club et qui se sont retrouvés à venir faire de la boxe avec Adèle. Et il y a un lien qui se crée. Et voilà. Et puis, il y a toute une hygiène de vie, il y a toute une mentalité, toute une pensée qui est différente une fois qu'ils sont sortis de détention. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce métier, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Et franchement, quand je vois des jeunes, ce qu'ils sont devenus après, moi, ça me motive encore plus. Et c'est pour ça que les jeunes étudiants d'aujourd'hui, ce métier existe. Il y a plein de possibilités, quoi.
Il y a beaucoup d'a priori, encore de préjugés sur le milieu carcéral. Est-ce qu'il faut avoir une empathie particulière, peut-être une compréhension particulière pour intervenir dans ce genre de milieu ? Parce que c'est vrai, pour certaines personnes dans la société, on entend souvent « ce sont des voyous, ils n'ont que ce qu'ils méritent » et que c'est un peu peine perdue d'aller les aider. Vous, c'est pas du tout votre vision. Comment ça se fait que vous pensiez comme ça et comment peut-être convaincre les autres aussi que c'est des humains comme le reste, juste qu'on a eu un parcours différent.
Ouais, alors là, on parle de mineurs. Effectivement, ce sont des jeunes, ce sont des mineurs. Ils sont en train de grandir, ils sont en train de... Voilà. Et il ne faut pas réduire un mineur à un acte qu'il a commis. Voilà, ça reste un mineur, c'est un enfant, il a des fragilités, il y a tout un parcours des fois qui est compliqué. Voilà, donc et c'est vrai que comme moi, j'ai un mineur en face de moi, je fais abstraction à... Voilà, c'est le mineur que j'ai en face de moi et je travaille avec lui. Voilà, je ne mets pas en face de moi, je vais pas le mettre sur un acte qu'il a commis. Non, justement, c'est le mineur qui est en face, moi c'est lui qui m'intéresse et je vais l'accompagner. Et effectivement, on va travailler aussi sur les actes. Pourquoi est-ce qu'il a... Et après, il y a une compréhension qui peut se faire. Pourquoi à un moment donné, il a été amené à commettre tel acte ? Voilà, et c'est sur ce pourquoi-là et surtout pour ne pas recommencer qu'on va travailler. Donc non, il ne faut pas... Après, bon, on a une formation particulière. Et puis, bon, c'est vrai que quand on commence notre carrière, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille à la PJJ, il y a effectivement le jeune qui est en face de nous. Ouais, on est empathique, il nous fait de la peine, etc. Mais il faut aller au-delà de ça et puis l'accompagner. Des fois, on peut être dur avec eux aussi, mais c'est parce qu'effectivement, on veut qu'ils se sortent de cette spirale-là. Et c'est pour ça que je suis motivée, que je continue à faire ce travail, quoi. Voilà.
C'est génial ce que vous faites, mais c'est dommage que ça soit une fois qu'ils soient en détention... En fait, que la société ou que les pouvoirs publics ou je ne sais pas qui d'autre s'occupent de cette jeunesse qui est en marge, hein, qui pas qui est en marge parce qu'ils sont vraiment ancrés dans la société quand même, mais où la société n'est pas adaptée forcément à eux.
Alors nous, on s'occupe d'eux avant la détention, parce qu'il y a tous mes collègues qui travaillent en amont. Il y a plein de jeunes. Hein.
C'est alors, dans quelle petite partie.
Alors, il y a des UMO, effectivement, des structures de milieu ouvert. Voilà, on en a effectivement ici. Il y en a une à Senon, à Lormont maintenant. Il y a une à Bordeaux, deux sur Bordeaux. Et après, c'est les autres, c'est Mont-de-Marsan, etc. Où ces jeunes, ils ne sont pas tous en détention. C'est rare, hein. C'est une petite partie qui se retrouve en détention. Mais on est des collègues de terrain, effectivement.
Donc, ils sont connus, vous arrivez à les distinguer, ils passent pas... par les mailles du filet, en fait.
Non, non, mais en fait, après, à un moment donné, ils sont suivis, ils ont commis des actes délictueux, ouais, mais qui n'ont pas nécessité une incarcération. Ou, voilà, il y a des mesures qui sont mises en place avec un éducateur qui va les accompagner pour justement éviter qu'ils se retrouvent en détention. Et on a pas mal, effectivement, où on arrive effectivement à le faire. Ouais. Après, bien avant, il y a tout un travail qui se fait en amont. Voilà, c'est pas... effectivement, quand ils arrivent en détention, on se dit, mince, il y a quelque chose qui... Et c'est pas trop tard, on peut quand même le travailler. Mais en amont, il y a plein de choses qui se font avec plein de collègues.
La détention, c'est pas le point de non-retour, quoi. C'est
non.
Ça qu'il faut comprendre.
Alors, il faut bien le comprendre, pas du tout. Pas du tout.
Limite, ça le provoque, le point de rupture. Si on pouvait éviter la détention, ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as repris, Nico, ce que j'avais dit. C'est-à-dire que des garçons comme Adèle, moi, quand je le vois fonctionner, il parle, c'est tout le monde qui se tait, quoi. Il y a un respect parce que c'est Adèle, c'est un grand frère. Donc, est-ce que ces gens-là... Là, il y a Adèle, mais il y en a d'autres. On ne peut pas leur donner plus de pouvoir à l'extérieur plutôt que qu'Adèle aille maintenant en milieu fermé, quoi, pour essayer de dispatcher son savoir et puis sa boxe. Est-ce qu'on ne peut pas justement créer des structures à l'extérieur où ces gens-là, on les voit déraper, tu les suis, tu viens de dire tout à l'heure, tu les suis avant qu'ils y rentrent. Est-ce qu'il n'y a pas des structures
possibles ? Ils ne rentrent pas forcément, hein. Des fois, ils sont... Et ça s'arrête.
Oui, mais comme je te dis, c'est le grand frère, quand il parle dans les cités, c'est dans les quartiers, on le sait, on l'écoute. C'est rare qu'il y en ait qui dérape. Parce qu'ils savent ce qu'ils dérapent avec le grand frère, ils vont déraper et puis ça va plus s'arrêter, quoi. Donc je prends un garçon comme Adèle, s'il attrape quelqu'un dans la rue, je suis persuadé qu'il dit stop, ça va être stop. Donc pourquoi pas créer des structures à l'extérieur qui d'abord coûteraient moins cher, peut-être, seraient plus ouverts aux, comme a dit Mélissa tout à l'heure, les préjugés des gens qui disent ouais, ben, ouais, ils sont derrière, vulgairement derrière les barreaux. Ça permettrait peut-être de faire comprendre qu'un jeune, ben, parce qu'il a dealé ou il a volé, bon attention, il y a aussi une échelle au niveau des crimes, on va dire ça, qu'il ne faut pas passer. Mais est-ce que ça ne ferait pas comprendre aux gens qu'on peut les aider ? Parce que là, ton travail à toi et à Adèle, il est formidable, mais personne ne le voit. On ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire ? Mmh. Donc le jeune, il va sortir, il va dire « Ouais, c'était bien avec Adèle, j'ai fait ça. » Mais il y a la boxe, c'est bien, il y a le travail.
Alors nous, on les lâche pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sortent de détention qu'ils sont... Non, on continue. Alors pas moi personnellement, mais j'ai mes collègues qui, effectivement, continuent de les suivre sur l'extérieur. Voilà. Et après, effectivement, il y a des fois sur des parcours, ils finissent en détention. Mais ils vont, effectivement, Adèle, ils l'ont rencontré en détention comme d'autres personnes. Donc en sortant, il y a cette rencontre qui s'est faite malgré tout. Donc et à ce moment-là, et si effectivement il avait décidé de prendre un chemin qui n'était pas le bon, avec cette rencontre, peut-être qu'effectivement, il va, voilà, cette rencontre, elle va se faire. Après, des structures spécifiques où... non, nous, dans le cas des milieux, on évite effectivement au maximum. Notre travail, c'est d'éviter qu'un gamin se retrouve en détention ou en EPM, etc. Voilà, on essaie de tout faire. Mais après... Certains, malgré tout, ça, ils vont passer par la détention et ça va être le déclic qui va se faire pour certains en détention. Voilà, à partir de là, ils sont passés une fois en détention, il y a un déclic qui va se faire et quand moi, il y a certains jeunes que je n'ai vus qu'une seule fois, j'en ai plus entendu parler parce que le déclic s'est fait et ils se sont ressaisis, il a fallu ça pour mettre un coup d'arrêt. Et puis d'autres jeunes, effectivement, où c'est un peu plus long, le coup d'arrêt va se mettre ou pas, mais ça sera un peu plus long, donc on continue à les accompagner.
C'est quoi ce déclic qui se passe en détention ?
Alors, en détention, il y a certains mineurs qui vont nous dire, mais moi, je ne pensais pas que... Parce qu'effectivement, le juge m'a dit à plusieurs reprises, fais attention, tu vas, voilà, ça va mal se passer, mais j'y ai pas cru. Donc, le jour où il se retrouve en détention, il se dit « Ah ben oui, mais si, c'est vrai, c'est possible. » Et puis la détention, comme vous le dites, c'est quand même un peu compliqué quand même. C'est pas un endroit où on aime se retrouver. Et effectivement, il suffit de ce petit passage pour qu'ils disent « Ben moi, plus jamais. » Et certains, effectivement, tiennent cette parole et on ne les revoit plus jamais.
Voilà. Et ça existe toujours, je me rappelle à l'époque, c'était rue Poitevin, je crois. Il y avait des éducateurs qui suivaient justement des jeunes qui commençaient à déraper un petit peu. Et toutes les semaines, il fallait qu'ils aillent pointer au Poitevin.
Tous ces services existent. Alors, c'est plus au Poitevin, nous avons notre DIR qui est là-bas, notre direction interrégionale. Et ce service-là dont vous parlez, il se retrouve juste un peu plus haut, Rutiac. Donc, c'est l'UMO de Bordeaux 1. Mmh. Voilà. Il y a l'UMO de Bordeaux 2. Et il y a l'UMO de Lormont qui, effectivement, font ce travail-là. Où effectivement...
Ça, c'est en amont avant
la bêtise. Oui, oui. Alors après, ça peut, effectivement, il y a un suivi qui se fait et ça reste sur ce suivi. Il ne va jamais se retrouver en détention ou en CEF. Ça va s'arrêter là parce que cet accompagnement va lui suffire et il va se réinsérer un petit peu dans la société. Donc voilà, ce travail se fait effectivement en amont avec les éducateurs du milieu ouvert.
Et Adèle, ton approche quand tu dispatches tes cours à Sèche-Fort-Lanoir et quand tu les dispatches dans la prison ?
Alors, moi, je voulais juste rebondir là sur ce qu'on vient de dire parce que c'est important. En fait, comme on l'a dit, tu vois, quand je vais au CER de Castelviel, par exemple, sur la pancarte en arrivant, il y a écrit...
Le sévère, c'est pas...
Ouais, centre éducatif renforcé. Et il y a écrit, l'avenir d'un jeune n'est jamais joué d'avance. Tu vois ? Et c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que le milieu carcéral, la case prison, ça peut aussi servir de déclic. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est rebondir sur ce dont on a parlé, mais l'accompagnement du jeune avant qu'il en arrive à l'incarcération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de discuter de ça et de dire qu'il y a une solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment donner les moyens aux personnes qui interviennent auprès des jeunes dans différentes structures, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient autres, et leur donner les moyens de pouvoir exercer ce travail-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune, vous voyez par exemple quand il rentre dans le cycle primaire à l'école, je sais que moi par exemple avant, quand on discutait, je discutais avec des éducateurs de rue, ils suivaient les jeunes à partir du collège. Mais je pense que la prévention, elle doit se faire bien avant. Elle doit se faire déjà dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en primaire, déjà, on doit commencer à faire un travail de prévention et on doit commencer à justement intéresser les jeunes par la pratique sportive, par la pratique du sport. Parce que le sport, c'est un vecteur, c'est quelque chose qui véhicule des vraies valeurs. Et justement, des valeurs avec la relation interpersonnelle, interindividuelle, c'est-à-dire avec soi-même. Et ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement propre à eux-mêmes déjà, c'est-à-dire déjà se connaître, apprendre à se connaître pour après connaître les autres. Parce que tu vois ce que je veux dire, Alain, c'est vraiment ce travail, c'est pour ça que j'aime ce que je fais. Moi j'aime quand j'accompagne des jeunes des tout petits et que je les vois grandir, je leur dis tout le temps, même quand ils déconnent, quand ils partent un petit peu, quand ils partent du mauvais côté, je leur dis que rien n'est perdu. Je dis c'est bon, t'as fauté, c'est pas grave, on va revenir. On va y arriver, on va travailler. Mais aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, moi, à travers la prison, quand j'interviens en prison, moi, j'aime beaucoup ça. Ces jeunes-là, quand je vais à leur rencontre, même eux, ils m'apportent. C'est-à-dire, ils m'enrichissent. Parce que leur parcours de vie, j'apprends à les connaître. Il y en a, ils ont eu vraiment des difficultés dans leur vie. Il y en a, c'est vraiment difficile pour eux. Au niveau familial, ils ont vécu vraiment des choses de fou, tu vois. Quand ils me racontent leur parcours et tout, c'est des choses hyper compliquées. Hyper compliqué. Et moi, avec ma pédagogie, j'essaye d'intervenir, j'essaye de les aider, j'essaye de leur apporter toute mon expérience, puisque moi aussi je suis un jeune issu des quartiers, on va dire. J'ai grandi dans un quartier, on sait comment ça se passe. Et c'est vrai que j'étais moi aussi turbulent, j'étais comme eux. Donc je sais, tout ça, je le comprends. Et ce que j'essaie de faire, c'est de leur dire que justement, moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver les gars. Il faut juste avoir des objectifs, croire en soi, croire en ses rêves et surtout se donner les moyens de les réaliser. Travailler, beaucoup de travail, travailler, faire du sport. Mais le sport, c'est vraiment la base parce que c'est ce qui m'a aidé c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Tu vois ? Donc je voulais juste rebondir sur ça, dire que les jeunes, il faut vraiment les accompagner dès le plus jeune âge. Dès le cycle de l'école primaire, et déjà commencer à parler avec eux, discuter avec eux, parce que tu vois, on voit des jeunes, des fois, ils sont tout petits et ils sont déjà, c'est déjà compliqué pour eux. Leur vie, elle est dure.
Est-ce qu'on peut prendre la place des parents ? La question est là.
On peut pas prendre la place des parents, mais on peut aider les parents.
Voilà. Tu vois,
on peut aider les parents. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre leur place, mais on peut les aider, on peut les accompagner, et on peut, moi aujourd'hui, il y a des parents qui viennent me rencontrer à la salle. Quand il y a une problématique, ils viennent, ils me le disent. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est en lien. On est en lien avec les parents, on est en lien avec l'école, en lien avec les professeurs, on est en lien avec la PJJ, on est en lien avec plusieurs structures. Et le but, de toute façon, on a tous un objectif commun. Il tourne autour du bien-être de ce jeune-là. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que ce jeune-là, il s'en sorte et qu'il réussisse. Tu vois ?
On parle souvent de responsabilité individuelle hein, quand un individu va en prison, mais est-ce que c'est pas aussi la responsabilité collective, c'est-à-dire quand un jeune va en prison, c'est un peu un échec de la société, ou pas du tout, en tout cas comment vous le voyez ?
Une faillite. Oui, effectivement, on peut pas... Il y a les actes, mais il y a aussi ce qui, parfois, on conduit le mineur à commettre ses actes. Voilà, donc effectivement, comme disait Adèle, nous, c'est, on va prendre le jeune dans cet accompagnement éducatif, mais ce n'est pas que le jeune, c'est tout son environnement, ses parents, effectivement, on a l'école, on a, voilà, c'est tout. Et nous, effectivement, au niveau de la PJJ, c'est une prise en charge éducative, mais qui est aussi pluridisciplinaire, parce qu'on a des psychologues qui, effectivement, peuvent rencontrer les jeunes à un moment donné. On a tout, enfin, dans notre service, il y a plein de gens qui, effectivement, peuvent être amenés à être en lien avec ce jeune, mais aussi avec sa famille, parce que le travail qu'on va faire avec le jeune, le discours qu'on va lui porter, il faut qu'il soit porté aussi par l'entourage familial, parce que sinon, sinon on lui dit quelque chose et qu'à la maison c'est autre chose, il va jamais s'en sortir. Il faut qu'on ait vraiment le même discours pour pouvoir faire sortir ce jeune de la spirale dans laquelle il se trouve. Donc c'est vraiment un travail global, environnemental, enfin il y a tout, c'est le jeune au milieu, mais il y a tout autour, on intervient sur tout ce qui va transiter autour du jeune aussi.
Et on parle de détention depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi elle consiste cette détention? C'est quoi le quotidien d'un jeune en détention? Quels sont ses droits? Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, un jeune au niveau du quartier mineur, nous, effectivement, sur Gradignan, on a un effectif, des places pour 23 jeunes, en fait, incarcérés. Voilà, donc on a des prévenus ou des condamnés, c'est-à-dire des prévenus, des jeunes qui sont sous mandat de dépôt, qui n'ont pas encore été jugés, et des condamnés, effectivement, qui sont passés au tribunal, qui ont une peine, qui a à faire, en détention. Le quotidien, donc, l'école est obligatoire sur le quartier mineur, dans tous les quartiers mineurs, effectivement. Donc, le jeune, il a son emploi du temps, il a ses cours, il a effectivement, nous, la PJJ, on a notre bureau qui est à l'intérieur du quartier mineur, donc on a les entretiens éducatifs avec ces jeunes. Il a la rencontre, effectivement, des psychologues, des médecins. Et ensuite, il y a toutes ces activités socio-éducatives qu'on peut mettre en place, donc et sportives, la boxe en fait partie, mais on l'ouvre à d'autres choses aussi, culturelles, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, ça peut être le zen art, ça peut être plein de choses en place. Et effectivement, on va lui faire découvrir plein de choses. La calligraphie, cet été, on a fait de la calligraphie arabe, donc c'était super. Enfin, des choses qu'il découvre en détention et les amener effectivement à s'intéresser à autre chose que ce qu'il ne connaissait dehors ou qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et donc, effectivement, on essaie de faire en sorte que le jeune ne soit pas en cellule 24 heures sur 24, il y a les promenades, etc., mais effectivement de l'ouvrir sur d'autres choses. Et ça fait partie un petit peu de notre travail, effectivement, éducatif en détention.
Pour terminer, je te posais une question. À l'époque, les jeunes avaient une carotte, c'est-à-dire que s'ils passaient un diplôme et qu'ils étaient reçus, il y avait des remises de peine. Ça existe toujours, ça?
Alors, là, effectivement, donc il y a effectivement les CRP automatiques et les remises de peine supplémentaires qui ne se font qu'en fonction du comportement du jeune en détention, s'il a été à l'école régulièrement, s'il a respecté les règles, si... Voilà, ça existe toujours, effectivement. Donc, quand ils sont condamnés, effectivement, à 4 mois, ils ne vont pas faire 4 mois parce qu'il va y avoir ces fameuses remises de peine, ces CRP et CRPS qui vont arriver en fonction du comportement du jeune. Voilà. Et c'est des petites peines ici sur les quartiers mineurs. Quand c'est des grosses peines, effectivement, ils sont envoyés sur des EPM qui vont leur offrir plus de choix au niveau des formations et de ce qu'ils vont pouvoir faire en détention. Nous, c'est un petit peu restreint en quartier mineur.
Et qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont vous dire que les jeunes, justement, en détention bénéficient de plus d'accompagnement qu'un jeune livre à lui-même et qui ne va pas fauter, par exemple, dans la société ou dans un quartier? Un jeune qui ne va pas du tout être accompagné comme ces jeunes-là le sont en détention.
Alors après, je crois que les jeunes qui sont en détention préféraient être dehors et ne pas bénéficier de cet accompagnement. Mais effectivement...
Il y a plein de jeunes qui ne sont pas accompagnés, on ne leur parle pas de culture, on ne leur parle pas de... on leur fait pas des formations à la musique, on ne va pas les éveiller à certaines pratiques culturelles, etc. On va pas les prendre, la société va pas les prendre en charge comme on peut prendre ces jeunes-là en charge, même s'ils préféreraient être dehors.
Oui. Alors après, ces jeunes-là, nous, effectivement, ils se retrouvent en détention, mais c'est des jeunes qui n'ont bénéficié d'aucun accompagnement quand ils étaient dehors, justement.
Mais c'est donc, peut-être ça le problème,
voilà.
Non
C'est par rapport à ce que je disais avant, tu vois, la prévention, elle se fait tôt.
Ouais.
Tu comprends? Et il y a aussi le milieu d'où il vient, le milieu familial. Mm-hmm. Tu vois? Comment il a été structuré, le jeune? Comment il a grandi? Parce qu'il y a des jeunes, ils ont des parcours chaotiques. C'est difficile. Quand tu vois qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de parents, il y a des jeunes qui n'ont pas de famille, il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Tu vois, tous ces jeunes-là. Donc ils sont dans la rue, ils grandissent dans la rue. Tu vois? Et les valeurs qu'ils apprennent, c'est les valeurs de la rue. Tu comprends? Le premier, je pense que les premiers responsables, ceux qui ont qui doivent donner le tremplin de la vie, en fait, c'est les parents, déjà. c'est les parents. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est sport, il y a tout ce qui est école, parce que le jeune, dès son plus jeune âge, il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à la maison. On est bien d'accord. Tu vois, dès qu'il arrive à 3 ans, déjà, on lui impose l'école. Tu vois, et il y a des parents, ils mettent leurs enfants bien avant, déjà bien avant, ils font des grosses journées. C'est-à-dire quand il est bébé, il va chez la nounou toute la journée jusqu'au soir. Tu vois, et après l'école, il enchaîne 3 ans, il enchaîne avec des journées, et après il va à la garderie le soir. Tu vois, donc c'est qui finalement, tu comprends, il se structure, comme je te disais, dans des endroits différents. Et il se structure à l'école, on est d'accord. Il se structure dans son lieu de vie familial avec ses parents. Et après, quand il grandit, il va avoir un troisième lieu. Ça va être quoi? Ça va être la rue. Ça va être soit les amis, soit la rue, soit le club sportif, par exemple. Ou le club culturel, faire une activité culturelle, tu vois. Donc, il va se structurer dans ces endroits qui sont différents. Et bien entendu, il faut accompagner ces gens-là, ces gens qui font ce travail-là, et leur donner les moyens, justement, d'accompagner notre jeunesse. Moi, je ne dis pas cette jeunesse, je dis notre jeunesse, parce que c'est notre jeunesse, c'est les jeunes de demain, ce sont les adultes de demain, tu vois. Donc, c'est important de rappeler ça et de dire que, voilà, que, comme je disais tout à l'heure, rien n'est perdu d'avance, on a le droit de fauter, on a le droit de faire des erreurs, et voilà, et nous, on est là pour les accompagner, leur enseigner ces valeurs-là, essayer de les repêcher et les aider, quoi.
On va continuer à en parler hein, juste après la petite pause musicale. Tout de suite, on écoute Sakatella et puis on revient avec vous, Fatia et Adèle.
Bordeaux, Bordeaux, Chaouya. 88.1.
Il est 13h39, on est en direct et vous écoutez Sport Campus. On est toujours avec Katia et Adèle et Alain, Nicolas, Joris. Hein. On était donc en train de parler du milieu carcéral et de vos actions au sein de ce milieu. On va continuer à en parler. Et Alain, je crois que tu avais encore pas mal de questions pour nos invités.
Tout à l'heure, Fatia, j'ai volontairement parlé du foyer Poitevin parce qu'il y a 40 ou 50 ans, je vais dire un terme qui est pas bien, mais en prison, il n'y avait que des Gaulois. On va dire ça. Il n'y avait que des gens, il n'y avait pas... Maintenant, tu travailles dans un milieu où tu as de diverses religions, diverses races, diverses coutumes, diverses... il me semble qu'il y a 50 ans, ou 40 ans, c'était beaucoup plus facile au niveau... D'abord, les PJJ n'existaient pas, mais au niveau des éducateurs, parce que tout le monde parlait pareil, tout le monde disait pareil. Donc, pour insérer les gens, c'était plus facile. Mais toi, est-ce que tu ne rencontres pas ces difficultés-là? Parce que je vois Adèle, quand il doit faire ses cours en prison... Il a toutes les races, il a toutes les religions. Il faut qu'il arrive à faire une mayonnaise avec tout ça. Est-ce que c'est pas ça la difficulté, en fait?
Il y avait un peu ça avant aussi. Hein. Il y a toujours eu de la mixité. Hein.
Oui, mais elle était beaucoup moins importante.
Juste un truc par rapport à ça. Tu vois, je vais juste... sur 30 secondes, Fatia. Après, je te laisse. Juste par rapport à ce que tu dis, Alain. Tu vois, en fait, ces jeunes-là, en fait, on parle pas de... En fait, quand tu vas en prison et que tu interviens... Pour eux, il n'y a pas de religion, tu vois, parce que déjà eux-mêmes ils connaissent pas, tu vois, donc ils connaissent pas et il n'y a pas de, je veux dire, d'ethnie. On va parler de mélange interethnique, tu vois, ou de, c'est-à-dire de voilà, de moi je suis par exemple, moi je suis d'origine intel, moi je suis d'origine. Pour eux, c'est juste voilà, moi on est là, tu vois, et déjà ils connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tout ça.
Il n'y a pas de clan, quoi.
Il n'y a pas de clan, mais même eux, ils ne connaissent pas, comment te dire.
Ce n'était pas tout à fait le but, ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des mineurs non accompagnés. On en parle beaucoup. Malheureusement, ils arrivent, ils n'ont pas de structure à la française, ils n'ont pas d'idée. Enfin bon, bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais quand tu les mets en milieu fermé, avec d'autres qui ont une structure, qui malgré qu'ils soient en prison, quand même, ça se passe comment? C'est beaucoup plus compliqué là.
Alors effectivement, Alain, tu as mis le point effectivement sur le doigt sur quelque chose de compliqué. Effectivement, nous avons des MNA, donc des mineurs non accompagnés, qui sont incarcérés. On en a vu pas mal il y a 2-3 ans. Et c'est vrai qu'effectivement, les codes ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas les mêmes, la langue n'est pas la même. Donc effectivement, dès qu'ils arrivent, il y a la barrière déjà de cette langue. Leur faire comprendre qu'ils sont dans un milieu carcéral avec des règles, c'est très compliqué. Et tout de suite, effectivement, on leur parle... Enfin, moi, je suis bilingue, du coup, je leur parle dans leur langue pour essayer de leur faire comprendre les choses. Et c'est vrai que la mayonnaise ne passe pas forcément avec les autres, les autochtones que je vais dire d'ici. Et nous, petit à petit, on va les amener effectivement à ce qu'ils puissent être intégrés dans ce groupe et leur apprendre effectivement les règles de la pénitentiaire, les règles de vie. Donc ils vont se rapprocher d'autres MNA effectivement comme eux en parlant en arabe. Donc nous, notre but, c'est effectivement, on fait sur le quartier mineur tous les mercredis matin ce qu'on appelle le petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on va sortir 4-5 jeunes à leur tour par groupe et la PJJ, la pénitentiaire, va leur proposer un petit déjeuner avec des céréales, des Nutella, jus d'orange, etc. Et nous, on va mixer effectivement ces groupes et les faire retrouver ensemble et parler un petit peu de t'arrives d'où, et toi, alors qu'est-ce que tu as vécu. Et petit à petit, effectivement, l'autre qui est d'ici, qui ne connaît pas l'autre, va apprendre à le connaître par cet intermédiaire-là et va s'intéresser à lui. Et on va essayer, nous, de faire passer les choses, les activités. On va mixer aussi pour qu'ils se retrouvent ensemble. La boxe, pareil. Donc Adèle a dû avoir sur un groupe de 5-6 de MNA qui ne parlaient pas le français. Mais ça passe, la mayonnaise monte. Enfin, ça se passe bien ensemble. Ils s'intègrent. Nous, on va travailler sur ça. Mais c'est vrai que les 15 premiers jours, quand ils arrivent, c'est compliqué.
Mais tu as dit les MNA, on leur parle en arabe. Mais MNA, ça ne veut pas dire Afrique du Nord.
Ah non, c'est pas que l'Afrique du Nord.
Ça veut dire pays de l'Est, ça veut dire partout. Donc comment vous faites là? Parce que quand tu mets quelqu'un d'un pays de l'Est avec un gars de l'Afrique du Nord, il y a un loup, ça ne peut pas aller. Quoi. Alors, au départ, ça ne peut pas aller. Après, oui, votre travail, c'est de faire aller. Quoi.
Ça passe après, effectivement. Les MNA ne sont pas que d'Afrique du Nord. Ah. Ils viennent de tous les autres pays. Et
non, parce que déjà que les gens, ils stigmatisent. Alors
non, c'est pas que... Voilà, non, je dis sur ce qu'on avait, oui, mais effectivement, mais on
parce
avait...
Elle est bilingue, Fatia, donc après, il y a peut-être d'autres éducateurs qui sont bilingues avec d'autres langues.
On va pas se cacher, il y a l'image de l'MNA, il vient du Maroc. Quoi. Voilà,
non, il ne vient pas que du Maroc, il vient de partout. Effectivement, donc l'MNA, c'est tous les autres pays, et effectivement, avec leur propre langue, et c'est le même travail. Alors, la facilité, c'est quand on arrive à parler la langue de l'autre, donc on peut se faire comprendre, et quand on n'y arrive pas, c'est compliqué.
Mais nous, on a un système
ISM, effectivement, avec le portable, où on a un interprète dans la langue du jeune pour pouvoir communiquer. Parce que la base, c'est la communication. Voilà, et si on n'arrive pas à communiquer.
Ça vous aide quand même de s'appeler Adèle ou de s'appeler Fatia, non? Ça aide un peu. Un petit peu, non? Il y a un respect qui se fait parce que vous êtes originaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, les MENA, malheureusement, il y en a qui viennent d'Afrique du Nord et ça aide, non? Un petit peu, non?
Bah, ça aide parce qu'effectivement, ils sont dans un lieu effectivement, où ils sont perdus et puis c'est un repère quelque part.
Oui, c'est un repère. Voilà,
c'est un repère, ils nous ont en face et le fait en plus de leur parler dans leur langue maternelle, eh bien, c'est encore mieux. Et du coup, effectivement, ça facilite beaucoup le travail et l'intégration. Voilà, c'est vrai que ça facilite les choses, le fait de parler la langue de l'autre.
Si on peut faire évoluer la question, on peut parler aussi de la gestion peut-être de l'autorité. Quelle est votre relation, vous tous les deux, avec l'autorité et en quoi cette autorité, elle est primordiale ou pas dans l'exercice de votre accompagnement, quoi.
L'autorité, on parle de la pénitentiaire, là, c'est ça?
Oui, l'autorité voilà. Que vous pouvez avoir.
Eh bien, nous, effectivement, on est des services différents. On intervient à la pénitentiaire, donc ce sont les règles de la pénitentiaire qui s'appliquent. Voilà, on leur dit, hein, t'es en prison, donc là effectivement il y a des règles, il faut respecter les règles, et nous effectivement on est dans cet accompagnement, et en sachant aussi que quand même le détenu a des droits, et que ses droits soient respectés. Voilà, nous on est vraiment dans ça. Voilà, on va faire attention qu'il n'y ait pas de... voilà. C'est notre travail, quoi.
On parle beaucoup de surpopulation, notamment en Gradignan, tu le sais. Au niveau du centre des jeunes, c'est pareil?
Alors là, actuellement, pour les mineurs, non, parce que nous, on a eu effectivement tout au niveau du code pénal, le CJPM, tout a été refait. Donc le but, effectivement, de cette nouvelle justice, c'est d'incarcérer le moins possible. Voilà, c'est vraiment la dernière phase. Donc effectivement, au début, quand j'ai commencé, on pouvait être à 23, un peu plus. Mais là, effectivement, on est sur un effectif de 11 jeunes actuellement incarcérés. Donc ça baisse.
Il n'y a que 11 jeunes dans le centre?
Oui, actuellement, oui. Il y a 11 détenus. Donc tant mieux.
Le système des cellules doublées et tout, ça n'existe pas.
Alors, chez les mineurs, ça n'existe pas. C'est un encellulement individuel. Le jeune est seul dans sa cellule. Il a les toilettes, etc., dans sa cellule. Voilà. C'est que chez les majeurs, c'est à partir de chez les majeurs.
Ne le dis pas trop parce qu'ils vont comprendre que c'est un 3 étoiles, autrement.
Ah, pas du tout. Alors là, franchement, non. C'est pas parce que vous êtes seul que c'est un 3 étoiles.
Et on parle des hommes, là, mais au niveau des femmes, il y a des structures comme ça pour les remettre en place?
Alors, au niveau des mineurs?
Mineurs ou...
Alors oui, ici sur le quartier mineur, vous avez le quartier homme et bâtiment A. Il y a une partie, c'est le quartier femme. Et donc, nous, les mineurs, on est sur le bâtiment B. Et par contre, on n'incarcère pas de mineurs filles. Il n'y a pas de place ici pour les mineurs filles.
Il n'y a pas d'incarcération de filles ici?
Si, pas ici à Bordeaux.
Et ils les mettent où alors?
Donc, en fait, ils vont les envoyer sur d'autres structures, notamment un EPM. Parce qu'en détention, là, il n'y a pas de place pour les filles. Et comme elles ne doivent pas être mélangées, effectivement, avec les majeurs, on ne peut pas les mettre au quartier femmes.
D'accord. Adèle, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as côtoyé des gens que tu vois... à la boxe ou dans le quartier que tu retrouves en prison, ils essayent pas un petit peu de t'acheter, de te dire allez frère, grand frère, allez passe-moi ci, passe-moi ça, fais-moi, on va dire ça, non?
Non, pas du tout. Ils ont
personne qui écoute, tu peux le dire.
Non, ils ont honte. Ils ont honte.
Ils ont honte, c'est ce que. Ouais.
Bien sûr, ils ont honte.
Ils ont honte d'être là en fait.
Ben ils ont honte. Moi après je te cache pas que moi je les engueule, tu vois. Donc.
Quand je parlais d'autorité, je parlais aussi de
ouais,
ça.
Ouais, je les engueule, tu vois. Moi, j'ai un rapport avec les jeunes, c'est-à-dire que je suis. Je vais te dire, c'est pas que je suis. Mais j'essaye d'être cool, tu vois, d'être
mais ferme,
gentil.
Ferme.
Mais
ferme.
Voilà, je suis ferme. C'est-à-dire que au bout d'un moment, soit t'acceptes ou soit t'acceptes pas. Si tu veux pas accepter, laisse les autres. Ceux qui veulent le faire,
tant pis pour
les
toi,
dérange
c'est
pas.
Ça.
Tant pis pour toi, c'est important d'apprendre. Parce que. Tu vois, le jeune, il faut qu'il apprenne aussi à gérer des frustrations. Si tu veux grandir et vivre en société et vivre convenablement avec les gens, c'est-à-dire que tu dois accepter des frustrations. Tout n'est pas toujours joli, tout n'est pas toujours beau, tu vois. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où malheureusement ça ne va pas. Et si ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas parce que ça ne va pas que je vais aller agresser quelqu'un ou faire un coup. Tu comprends? Donc moi, c'est ça que j'essaie de leur dire. Ce que j'essaie de leur dire, c'est que voilà. Et ce qui est bien, ce qui est super, c'est qu'avec la boxe, tu vois, on apprend à gérer des frustrations. Aujourd'hui, tu vas boxer, tu vas prendre des coups, tu vas peut-être... être moins fort que l'autre, devant les autres. C'est important, le regard des autres aussi, tu vois. Et comment tu vas réagir? Tu vois, cette frustration, comment tu vas la gérer? Comment tu vas réagir? Comment tu vas rebondir? Est-ce que demain tu vas revenir et tu vas comprendre des choses? Donc c'est ça que j'essaie de faire, moi, de leur faire comprendre, tu vois. Quand je leur demande quelque chose, ils le font. J'ai pas de problème. C'est-à-dire que même si c'est pas des sportifs, même s'ils fument, même s'ils sont pas des jeunes qui ont le cardio, Eh bien, dans les séances, ils se donnent à fond. Je leur demande de faire un échauffement, ils le font. Je leur demande de courir, ils courent, tu vois. Donc, il y a une façon, il y a une pédagogie aussi, c'est important de le dire, tu vois. Moi, je pense que j'ai aussi ma pédagogie. La façon, la pédagogie, c'est l'art et la manière d'enseigner, tu vois. C'est comme quand tu étais à l'école. Quand tu vas à l'école, il y a des cours que tu aimes bien et il y a des cours que tu n'aimes pas. Pourquoi ? C'est pas parce que tu n'aimes pas le cours spécialement, tu vois, je veux dire le français ou les maths. C'est parce que le prof, comment il t'amène le truc, sa façon dont il l'amène, ça te plaît pas, tu vois. Donc c'est la pédagogie, c'est comment tu amènes le truc. Et moi, à travers mes cours, c'est une pédagogie de, comment te dire, on peut dire grand frère, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me soucie de leur état, pourquoi ils sont là, pourquoi vous êtes là. J'essaye de leur dire que voilà, que c'est pas leur place, que ce sont des jeunes qui doivent être heureux, qui doivent sourire, qui doivent avoir des projets et qui doivent pas être en prison, tu vois. Donc moi, je leur montre que je me soucie d'eux et ça, ils le ressentent, tu vois. Les jeunes, ils le ressentent directement, tu comprends.
Moi, j'ai l'habitude de leur dire, quand vous levez le pied, j'ai déjà vu votre semelle, quoi. C'était un jeune que j'avais au football qui essayait de... Pour la faire comprendre, c'est vrai, c'est ce que tu dis, toi, qu'on a quand même une expérience de vie et qu'on sait que, voilà, ça va se passer comme ça. Quoi.
Justement, dans notre accompagnement et notre travail, effectivement, qu'on fait au sein du quartier mineur, c'est de revenir sur les actes commis par les jeunes et d'éviter la récidive. Voilà, donc on est vraiment sur ça. Et nous, c'est vrai que notre travail aussi, on est en lien avec les magistrats. Donc on fait remonter les choses, etc. Et on travaille sur les actes qui ont été commis par les jeunes. Et surtout, notre but, c'est d'éviter à tout prix la récidive.
De les revoir, quand même.
Voilà,
pas les revoir.
Tout à fait. Donc on est vraiment sur ça. Et on peut être dur sur certaines choses. Ou quand effectivement, ils vont essayer, on va voir que non, ben, j'ai pas fait ça. Non, vraiment, on revient sur les choses. Et on est vraiment ferme sur ça. Parce que nous, notre but, c'est de... Quelque part, quand on revoit un jeune revenir, c'est un échec pour nous. Voilà, c'est pour lui, mais c'est pour nous aussi de le revoir revenir en détention, quoi. C'est quelque chose n'a pas marché.
Depuis le début de l'émission, on sent vraiment que ce que vous faites, c'est très utile, hein, et vous le présentez comme ça. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, c'est pas assez valorisé dans la société? Ça mériterait être plus connu? Ou au contraire, peut-être, ce serait peut-être aussi un frein de mettre trop la lumière sur des choses qui ont besoin d'être faites dans l'intimité, dans un certain secret. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Mais bien sûr que c'est pas assez connu, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour en parler. Et moi, depuis que je travaille avec Fatia, ça fait maintenant, ça fait pas mal d'années. Hein.
On dit pas, mais ça fait très longtemps.
Ça fait longtemps, ouais. Ça fait pas mal d'années et que j'interviens avec la PJJ. Et moi, j'ai toujours essayé de mettre en lumière ce qui se passe derrière les barreaux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous remercie tous. Hein. Merci Alain, tu vois, de nous avoir donné la parole pour pouvoir en parler et pour pouvoir présenter ça. Et surtout, ce qu'on fait, on a envie d'en parler parce que derrière les barreaux, tu vois, les gens, ils savent pas ce qui se passe. Mais il y a une vraie réinsertion, il y a un vrai travail. Il y a des éducateurs, il y a comme Fatia a précisé, il y a l'école, il y a le sport, il y a apprendre à vivre ensemble, respecter des règles, tu vois. Donc c'est vraiment un vrai travail et ce travail-là, il faut vraiment en parler et le mettre en lumière, à la lumière.
Et surtout mettre en lumière la PJJ qui n'est pas connue. On a besoin d'éducateurs, on a besoin effectivement de gens qui ont plusieurs formations.
Vous avez
formations.
Du mal à recruter?
Alors, c'est pas connu en fait. Déjà, quand on vous dit éducateur PJJ, on a toujours, mais c'est quoi la PJJ? Donc, c'est pas connu.
On peut le rappeler, hein, voilà. C'est protection judiciaire de la jeunesse.
Exactement. Donc, voilà. Donc, non, on a besoin effectivement de plusieurs profils, tous les profils. Voilà. Le but, c'est effectivement d'accompagner ces jeunes, de les faire sortir effectivement de la spirale des délinquants dans laquelle ils sont et de les accompagner, eux, leur famille, et sur d'autres voies, sur une voie effectivement plus.
Parce que tout à l'heure, tu en as parlé, tu m'as remercié, c'est gentil. Mais en fait, ça fait longtemps que je voulais faire cette émission parce que, bon, vous avez compris, j'ai pas eu une enfance aussi trop facile. J'ai connu pas mal de choses aussi. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé, quoi. Donc, j'ai pas à raconter ma vie, mais j'aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent, je suis pas PJJ, je suis rien du tout, que quand on veut, on peut. Parce que en 2022, il y a des moyens, il y a des PJJ, il y a des centres, tout ça. Moi, je suis le 58. Et quand on avait 14, 15 ans, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien du tout. Et quand on était dans la rue, eh bien, si on s'en sortait, c'est parce que ou c'était Dieu ou c'était nous. Il n'y avait pas 36 solutions. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes maintenant qu'il faut qu'ils attrapent ce qu'on leur tente. Bon, en fait, il ne faut pas qu'ils cherchent à dire eh bien, tu m'as donné une main, je vais te manger le bras. Quoi. Il faut qu'ils s'arrêtent là, qu'ils écoutent des grands frères comme Adèle, comme toi. Il y en a partout dans les cités. Hier soir, j'ai regardé un reportage sur C8. Sur les portes de la chapelle et tout ça, le crack et tout. Mais ça prend au tri parce qu'on voit des gens très jeunes. Et on voit des gens qui essayent mais de leur faire comprendre qu'il ne faut pas, que c'est trop tard, parce qu'on voit des gens qui rentrent dans un café, il y a deux petites jeunes filles, là, ils leur proposent une cigarette, à l'intérieur, il y a du crack, parce qu'il paraît que quand on y a goûté, ben, on ne peut plus lâcher. Et c'est les gens comme vous qu'on a besoin, mais moi, ce que j'ai envie de dire aux autres autorités, s'ils m'écoutent, ben, enfin, je ne pense pas, c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre le truc en amont, c'est que des gens comme Adèle, comme d'autres, il faut leur donner un métier qui soit à l'extérieur. Parce qu'Adèle, il fait de la boxe, il bosse, il n'a pas que ça à faire, en fait. Il faudrait qu'il fasse que ça. C'est, à mon avis, c'est, on a parlé d'éduquer les jeunes, mais pour éduquer les parents, Adèle, il peut aller taper à la porte. Il peut aller voir le monsieur et lui dire, attends, oh, on sait qu'est-ce que tu fais avec ton fils ? Il peut lui expliquer, il peut lui faire comprendre. Et à travers ça, le papa, il va peut-être qu'il ne comprend pas les règles au départ, il va les comprendre parce qu'Adèle, il est reconnu et il va les expliquer. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien ce que vous faites à l'intérieur. Mais moi, j'aimerais le voir à l'extérieur. Beaucoup plus. Ça se fait, hein, la preuve. Adèle est là. Mais moi, j'aimerais le voir parce que j'étais confronté à pas mal de jeunes. J'ai connu pas mal de jeunes, notamment au niveau du foot. J'en ai vu partir avec la drogue. J'en ai vu partir en prison. Et on aurait pu faire autre chose. Moi, je sais qu'il y en a plein qu'on aurait pu faire autre chose. Mais bon, la société dit que, eh bien, on s'en fout. C'est un tolard, c'est un voleur, c'est un drogué. C'est... Après... moi, je cautionne pas tous les crimes. Hein. Attention, il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner. On le sait, l'actualité nous le dit maintenant. Mais un jeune qui a vendu du shit, une fois, deux fois, trois fois, il va partir six mois au placard. C'est pas mort pour lui, c'est votre boulot.
Ah bah oui,
mais
oui,
il va le porter toute sa vie. Bah, ça va s'oublier, ça ne sera plus écrit sur le casier. Mais dans sa tête, il les aura les années, les mois ou les années. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il fallait peut-être travailler plus en dehors qu'à l'intérieur.
Alors, c'est notre but, nous aussi. Plus en dehors qu'à l'intérieur.
Mais moi, je crois aussi en la transmission parce que... Avec vos interventions en milieu fermé, tous les deux, vous formez peut-être aussi les futurs grands frères, ces jeunes-là qui vont sortir à un moment donné. C'est peut-être eux les futurs grands frères qui vont porter un petit peu la bonne parole et qui vont peut-être accompagner parce qu'ils auront connu ça. Ils auront connu le pire en fait. Et donc après, il y a cette transmission et ces valeurs qui peuvent être transmises. C'est le bouche à oreille, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je crois plutôt, je pense que ça peut être positif aussi. Quoi.
Mais c'est positif, justement.
C'est très positif. Et positif. C'est des mineurs, et voilà. Il n'y a que du positif. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà.
Après, il y a tout. Il y a le patron qui ne veut pas embaucher parce que celui-là, il est connu. Parce que si ce cas-là... Moi, j'ai embauché des gars qui sortaient de prison. Là, j'ai encore de migrants qui ont été régularisés voilà, il y a 15 jours. Et j'en tire que du positif. Quoi. Exemple, j'ai un migrant kazakh qui a fui la Russie. Je lui ai donné hier, hein, ma fille est là pour le dire, une chambre, enfin je lui ai fait cadeau. Il est arrivé avec sa femme, il m'avait fait un gros caddie de course et tout. J'ai voulu dire non, il ne faut pas, mais si, c'était... alors que c'est quelqu'un qui était perdu, c'était quelqu'un qui est arrivé en France, il a des enfants, sa fille a été reçue au concours des gendarmeries et tout ça parce qu'ils ont été aidés par des gens qui bossent, mais ça a été fait avant. Si personne s'était occupé d'eux quand ils sont arrivés, je ne suis pas sûr que sur ces sept gosses, tu vois ce que je vais t'expliquer ?
Il faut croire en l'autre. Enfin, moi, c'est...
Il faut aimer l'autre.
Il faut croire en l'autre. Et voilà. Et surtout, voilà, tout est possible.
Quel qu'il soit, il faut l'aimer.
Et se donner les moyens d'y arriver, voilà. Sinon, on ne serait pas là.
Il nous reste deux minutes.
Oui, je voulais juste dire un truc pour Adèle, pour le club du Sandbox, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Samedi, donc, ils m'ont invité, c'était les demi-finales du championnat d'Aquitaine.
Exactement.
Ils ont 5 qualifiés pour les finales qui vont se dérouler samedi, je crois que c'est ça, à Saint-Julien.
Ouais, c'est ça, à Saint-Julien, ouais.
Saint-Julien, ouais. Voilà. C'était merci à dire, parce rappeler, que ça prouve ouais. encore le bon boulot que le Sandbox fait.
Merci.
Campus Bordeaux,
88.1. Un grand merci Fatia Echari et Adèle hein, d'être venues sur notre antenne, d'avoir merci répondu à nos questions. Merci vraiment beaucoup. C'est à présent la fin de ce Sport Campus pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et puis merci à toute l'équipe, à Alain, Joris et Nicolas.